Ce matin, j'aimerais partager une réflexion tirée de l'évangile de la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 5, du verset 6 au verset 11. Donc, Romains, le chapitre 5, du verset 6 au verset 11. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comme Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Amen. Amen. La religion, elle est pour nous, les êtres humains, pour nous tous, aussi naturelle que boire, que manger, que respirer. L'être humain, il a cette intuition qu'il existe quelqu'un là-haut, qu'il existe quelque chose là-haut, quelqu'un qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que nous. Il existe, l'être humain, il a cette intuition qu'il existe. Cette phase que nous vivons dans l'histoire, d'athéisme, d'agnosticisme, ça c'est nouveau dans l'histoire. Hein, l'athéisme qui pense, qui ne croit pas en Dieu, et l'agnostique qui ne sait pas trop de dire, ouais, peut-être que oui, peut-être que non, parfois oui, parfois non. Donc cette phase-là, cette mentalité, elle est nouvelle dans l'histoire. Elle est très récente dans l'histoire. Tout est nouveau. Mais dans chaque époque, à chaque époque, dans chaque nation, dans chaque culture, il y a eu toujours cette intuition, l'être humain, il y a eu toujours cette intuition qu'il existe quelque chose ou quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous, qui est beaucoup plus puissant que nous. Voilà la première chose que nous intuitons. La deuxième chose que nous intuitons, c'est que cette réalité-là, cette réalité, cette force, cette réalité, en fait, ici, la réalité présente, elle dépend très peu de nous. Ce sont plutôt ces forces, ces puissances-là qui gèrent la chose ici-bas. Hein, et même dans notre contexte chrétien, nous avons cette intuition, nous intuitons cela. Lorsque quelque chose de bon, c'est intuitons, non? Ça n'existe pas? Non? Lorsque nous pressentons, voilà, pressentons, ça va mieux. Nous avons l'intuition, cette même intuition que la chose ici en bas dépend très peu de nous. Par exemple, quand il y a quelque chose de bon qui arrive, c'est produit dans nos vies, qu'est-ce que nous disons? Merci Seigneur. Puis, quand il y a quelque chose de mauvais qui se produit dans notre vie, nous disons, mais pourquoi Dieu? Pourquoi es-tu en train de faire cela avec moi? Parce que tout au fond, nous pressentons, nous avons cette intuition que tout ce qui se passe à l'étage ici, ici-dessus, est une expression, est un reflet de quelque chose qui se passe là-haut. C'est à ce moment-là que la religion entre en jeu. C'est à ce moment-là que la religion. Et la religion est quoi? La religion est un système organisé qui nous dit comment nous devrions agir, comment nous devrions nous comporter, comment nous devrions vivre vis-à-vis de cette puissance qu'elle a, vis-à-vis de cette force. C'est pourquoi la religion, elle existe depuis toujours dans toutes les nations, dans toutes les expressions culturelles. Mais bon, parlons maintenant de ce qui concerne la foi chrétienne. Parlons maintenant de ce qui concerne le Dieu créateur de tout, le Dieu de la Bible en fait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu que Jésus nous a enseigné à appeler de Père. Parlons-en maintenant. À partir du moment où nous grandissons de notre relation avec Dieu, automatiquement, nous développons, ou mieux, nous construisons quelques logiques. Nous développons quelques méthodes. J'arrive à percevoir au moins deux logiques, ou au moins deux manières que nous entrons en relation avec Dieu. La première manière, je dirais, c'est à travers le mérite, la vertu, mériter la faveur de Dieu. Il y a ceux qui sont engagés, ceux qui essayent de suivre les commandements de la Bible, ceux qui essayent de vivre en fonction de la volonté, de faire la volonté de Dieu. Ils essayent de suivre un cheminement, je dirais, de vertu. C'est un cheminement de vertu, un cheminement de la recherche constante d'être parfait. S'ils ne sont pas parfaits, ils sont presque parfaits. Hein, ils sont. C'est le cheminement du pharisien, hein, de la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien qui est allé au temple pour prier, et puis il dit, Oh Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes. Hein, je suis quelqu'un de bien, je fais les choses bien. D'ailleurs, Seigneur, je fais même plus que ce que la Bible demande. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire là, c'est Seigneur, je te félicite d'avoir un enfant comme moi. Hein? Félicitations parce que moi, là, je suis trop bien. Je suis un type extraordinaire. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas parfait, mais au moins, je suis mieux que tous les autres, là. Hein? C'est ce qu'il est en train de dire. Je suis la personne la plus fidèle à Dieu que je connaisse. Donc, c'est un cheminement de vertu. C'est un cheminement vers la perfection. Et donc, ceux qui suivent ce chemin, ils deviennent moralistes, ils deviennent légalistes, ils sont cruels envers eux-mêmes et envers tout ce qui l'entoure. Pourquoi? Parce que leur standard de vie est trop haut. Ils ont mis leur standard de vie spirituelle est trop haut. Ils ont mis la barre très haut là. Puis ils finissent par être cruels envers eux-mêmes et envers tout ce qui les entoure. Et puis ils mesurent les autres selon leurs propres expériences. Et ils mesurent les autres selon leur propre sens de vertu. Si j'arrive, alors tu arrives. Si je fais l'effort, alors tu dois aussi faire l'effort. Si je me sacrifie, alors tu dois aussi te sacrifier. Si je fais la volonté de Dieu, alors tu dois aussi faire la volonté de Dieu. Et c'est lorsque la personne, c'est quand la personne, elle n'accepte rien de moins que la perfection, ou presque la perfection. Et puis la personne, lorsqu'elle est très perfectionniste, elle est rarement satisfaite. Parce que la perfection n'existe pas. La perfection, on ne peut pas l'atteindre. Et si on ne peut pas l'atteindre, mais quand même nous continuons à rechercher la perfection, nous serons toujours frustrés, nous serons toujours remplis d'un sentiment d'échec. Mais nous avons et nous éprouvons ce besoin-là, c'est d'avoir le sentiment que nous méritons quelque chose. Et cela, pour notre spiritualité, c'est très compliqué, parce que nous vivons avec un sens de mérite. Nous sommes tellement consacrés à Dieu, nous sommes tellement engagés pour Dieu que nous méritons qu'il nous bénisse, quoi. Nous sommes tellement fidèles à Dieu qu'on vit avec ce sens-là que nous méritons quelque chose, que nous méritons d'être bénis. Je ne sais pas pourquoi cela est en train de se produire dans ma vie. Pourtant, je lis la Bible, pourtant je viens à l'église, pourtant je donne ma dîme, pourtant je viens aux rencontres de prière. Pourquoi alors mon mariage a-t-il échoué? Pourquoi ma vie amoureuse n'avance pas? Pourquoi est-ce que mes rêves ne se réalisent pas? C'est comme si nous faisions notre part et que Dieu serait obligé de faire la sienne. Hein, c'est un peu ce sentiment-là. Nous faisons notre part et Dieu, c'est comme si Dieu, il n'était pas en train d'accomplir sa part du contrat. Hein, on a un contrat, Seigneur, ok, moi ici c'est bon, alors toi, débrouille-toi. Et puis c'est compliqué quand même parce qu'on trouve cela dans la Bible. Hein. On trouve cela dans la Bible. Et pour ceux qui construisent leur spiritualité religieuse à partir de l'Ancien Testament, tu trouveras dans les livres de Deutéronome, le chapitre 28, les bénédictions de l'obéissance et les malédictions de la désobéissance. Donc si tu fais ça, alors tu seras béni. Si tu ne fais pas comme ça, alors tu seras maudit. Donc ce sentiment de vertu, de mérite, est très compliqué, très compliqué. Cependant, de l'autre côté-là, il y a ceux qui ont décidé de ne plus marcher sur le chemin de la vertu. Il y a ceux qui, ils sont, je dirais, ils sont plus raisonnables. Ils ont compris, ils ont une conscience plus sensible, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, ils savent qu'ils ne seront jamais parfaits, ils savent que personne ni rien n'est parfait. Et que ce cheminement-là de vertu vers la perfection, vers le mérite, c'est un cheminement, c'est un chemin d'échec et de frustration. Alors cette équipe ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur le chemin, je dirais, de la commisération. Hein, ils sont sur le chemin de la culpabilité. Ils vivent, la personne, elle se réveille en suppliant déjà la miséricorde de Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Hein? Aie pitié, Seigneur, miséricorde. Et puis quand il y a quelque chose qui arrive, aie pitié. Oh, Seigneur, non. Aie pitié de moi. Donc c'est un cheminement que je dirais, un cheminement de commisération. Parce que tout au fond, la personne qui est ici, la personne qui vit une vie avec ses sentiments de culpabilité, de commisération, elle sait qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle mériterait quand même la punition de Dieu. Hein? Elle sait que on essaie quand même de jouer les rôles, on essaie quand même d'être vertueux, mais au fond, on sait que ça va pas. On sait que on sait que c'est vraiment et uniquement par la miséricorde de Dieu. Puis la personne ici, elle développe un discours de commisération, un discours, elle vit une vie dans la défaite. Elle vit une vie en se culpabilisant. Elle vit une vie, elle a fait ses pénitences, quoi. Elle vit avec la tête baissée, elle vit en essayant de faire des sacrifices justement pour compenser la culpabilité, pour compenser sa dette envers Dieu. Donc d'un côté, la personne, elle veut être parfaite, et puis de l'autre côté, la personne, elle sait qu'elle ne sera jamais parfaite, donc elle se livre à l'imperfection. Elle se livre à une vie d'imperfection. Mais comme elle n'arrive pas à vivre en paix avec son imperfection, parce qu'elle a peur de Dieu, elle a peur du châtiment de Dieu, alors elle a fini par faire des pénitences, par faire des sacrifices, parce qu'elle vit avec la peur que Dieu va la punir. Elle vit avec la peur que Dieu va enlever son travail. Elle vit avec la peur que Dieu va lui envoyer une maladie, que Dieu va faire ceci, que Dieu... C'est cette personne qui dit ainsi, peut-être que tu la connais. Tout va tellement bien que je pense que quelque chose de mauvais va se produire. Hein? As-tu déjà pensé ainsi? Tout va tellement bien, la famille, les enfants, les mariages, l'emploi. Mais dis donc, je pense que quelque chose de mauvais va se produire à quelques moments là. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme ça ou si vous connaissez quelqu'un qui pense comme ça. Puis, effectivement, il y a la mauvaise nouvelle qui arrive. Il y a la mauvaise nouvelle qui arrive et puis la personne, elle a fait automatiquement le lien avec Dieu. Alors, la personne, là, elle a vie esclave de ses péchés du passé. Elle vit esclave de ses souvenirs du passé. Elle vit esclave de ses fautes du passé et puis elle n'arrive ni à profiter de la vie, ni à jouir du plaisir et de la bonté de Dieu. Ainsi donc, je dirais qu'il existe ces deux logiques-là, hein, que nous trouvons d'ailleurs dans la Bible aussi, hein, la parabole du pharisien et du publicain, du collecteur d'impôts que je vous ai dit, la présente exactement ça. D'un côté, le religieux parfait, le religieux perfectionniste qui se jugeait être assez bon, et puis de l'autre côté, le collecteur d'impôts, qui était probablement un homme corrompu. Donc, d'un côté, le religieux parfait, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui savait qu'il n'était digne de rien. Quelqu'un qui le jugeait être un vaurien, un ver, ou. Et nous vivons, vous voyez, nous vivons sur ces pendules-là, entre la perfection et l'imperfection, entre la poursuite du mérite et la culpabilité du plaisir. Nous vivons comme ça, sur ces pendules. Mais Jésus, il brise ces deux logiques. Jésus, il brise ces deux logiques. Nous pensons en fait qu'il existe seulement ces deux logiques parce que dans la parabole, il n'y a que deux personnages, pas trois. Non, il existe deux possibilités, pas trois possibilités. Donc, soit tu restes là en train de dire, Seigneur, je suis très bien, félicitations d'avoir un enfant comme moi, soit tu es le collecteur d'impôts qui dit, je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis un ver, je ne suis digne de rien. Mais alors, Léo, quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? L'alternative, frères et sœurs, l'alternative, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et quelle est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ni le mérite ou la perfection, ni la commisération ou la culpabilité, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous jouissons de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous délivre de cette logique de la perfection et de cette logique de la commisération. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. C'est ce que le texte dit, hein, que nous avons lu au tout début. Le texte dit, voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand Jésus-Christ, il est mort pour nous, il savait déjà qui nous étions. Il savait déjà qui nous étions, mais il nous a quand même aimés et il nous a quand même offert sa vie. Gloire à Dieu. Puis le texte, il dit encore que nous avons été justifiés et que nous avons été réconciliés avec Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est mort que tout est en ordre entre nous et Dieu. Et c'est à partir de cette révélation de la grâce de Dieu que Dieu lui vient et il nous dit, enlève-moi de ces jeux-là, des logiques religieuses. Pourquoi es-tu en train de faire du travail bénévole? Parce que tu veux me montrer que tu es quelqu'un de bien? Tu n'as pas besoin. Pourquoi es-tu en train d'aider les nécessiteux? Parce que tu veux me montrer que tu es quelqu'un qui mérite? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de m'impressionner par tes vertus. Tu n'as pas besoin de m'impressionner par tes bonnes actions. Je t'aime, même si tu ne fais rien de cela. Je t'aime, même si tu. Puis Dieu se tourne vers l'autre personne et lui dit, mais toi, tu restes là en train de me dire que tu ne vaux rien, que tu es en ver, que tu es nul, que tu es en train de porter un fardeau, que tu es en train de porter une culpabilité, que tu n'arrives pas à profiter de la vie parce que tu as peur de moi. Alors enlève-moi de cette logique. Enlève-moi de cette logique. C'est intéressant que dans la parabole hein, du pharisien et du publicain, le publicain, il est pris en frappant sa poitrine et puis il n'ose même pas regarder les yeux, enlever lever les yeux vers le ciel. Et puis il dit, aie pitié de moi. Il n'arrive même pas à lever les yeux vers le ciel. Il est pris avec la tête baissée. Et puis je pense que Dieu lui aurait dit, mais regarde-moi. Pourquoi as-tu honte de moi? Pourquoi as-tu peur de moi? Pourquoi tu es mon fils et je t'aime? Tu es mon fils et je t'aime. Viens, rentre chez moi. On va discuter. Regarde-moi. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de moi. Arrête avec ces discours de culpabilité, de pénitence, Vous savez, notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Notre relation avec Dieu dépend de son amour pour nous. Amen. Notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Notre relation avec Dieu dépend uniquement de son amour pour nous. Il n'y a rien que tu fasses qui fera que Dieu t'aime moins. Et il n'y a rien que tu fasses qui fera que Dieu t'aime plus que ce qu'il le fait déjà. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Ah, super, Léo. Ça veut dire que je peux vivre comme je veux, vivre une vie n'importe quoi. Alors, ça veut dire que je peux mentir, voler. Parce que de toute façon, Dieu m'aime, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais quel genre de personnes serions-nous si nous choisissons une eau pourrie et méprisons la source d'eau vive qu'est notre Seigneur? Quel genre de personnes serions-nous si là où nous passons, nous laissons les gens autour de nous attristés, blessés et écrasés par notre méchanceté? Vous savez, le grand problème du péché n'est pas ce qu'il produit en Dieu. Le grand problème du péché, c'est ce qu'il produit en nous. Et la grâce de Dieu, elle nous amène au pied de la croix, repentis. Et c'est là, au pied de la croix, repentis, que Dieu, il vient, il nous prend par la main et il nous met de nouveau debout pour la vie en abondance, pour la vie en plénitude. Puis le Saint-Esprit, il vient, il dit, es-tu sûr que tu veux de l'eau sale à nouveau? Parce que j'ai pour toi une source d'eau vive. J'ai pour toi une source, j'ai pour toi la vie en abondance, j'ai pour toi la vie en plénitude, j'ai pour toi la réconciliation, j'ai pour toi la restauration et non pas la destruction, j'ai pour toi la restauration de votre vie, de ta vie. C'est ça. Et la grâce de Dieu, elle nous donne, elle nous offre cette liberté. Liberté d'être et de vivre sans avoir besoin de conquérir l'amour de Dieu ou sans avoir besoin de rester craintif que Dieu il va nous punir. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. Dieu nous aime indépendamment de ce que nous faisons et indépendamment de ce que nous ne faisons pas. L'amour de Dieu est une valeur sûre. L'amour de Dieu est une valeur sûre. La grâce de Dieu, je dirais qu'elle est élégante. Elle nous redonne notre dignité de fils et filles bien-aimés de Dieu. Elle nous redonne notre dignité de fils et filles créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis Dieu, il vient et nous dit, maintenant vis, mon fils. Maintenant, vis ma fille. Je sais que tu as tes culpabilités du passé. Je sais que tu as tes blessures du passé. Je sais que. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Maintenant, veux-tu continuer à te punir? Veux-tu continuer sur ce chemin-là de je mérite rien, je suis rien, je ne vaux rien, aie pitié. Veux-tu continuer sur ce chemin-là ou toi, tu veux continuer dans cette idée-là que tu as quelqu'un de bien, que tu mérites, que tu... Alors enlève-moi de cette logique-là. Enlève-moi de cette logique. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Seigneur, comment me vois-tu? Hein, comment tu nous vois? Je te vois comme mon fils, comme ma fille. Je ne te vois pas comme mon ennemi ou comme un rebelle, parce que nous sommes déjà réconciliés. Nous avons déjà été réconciliés. Je te vois comme étant pur, comme étant saint, comme étant juste, parce que nous avons été justifiés et sans faute. Moi, Seigneur, sérieux là que tu nous vois comme ça. Franchement, hein, tu nous vois comme ça, c'est vrai, pur, saint, juste, juste. Oui, parce que je te vois à travers le sang de Jésus. Je vous vois à travers le sang de Jésus. Dieu nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, jouissons de cela. Jouissons de cette liberté. Jouissons de cette grâce. Soyons libres. Soyons libres. Libres du poids de la culpabilité. Libres de la tyrannie de la perfection. Libres. Libres. Voilà ce que nous allons célébrer maintenant. Voilà ce que nous allons célébrer, la grâce de Dieu qui nous rend libres et qui nous délivre. Nous délivre des logiques oppressives de la religion. Ainsi donc, ma prière, c'est que tu puisses célébrer le repas du Seigneur avec cette conscience. Non pas avec le sens du mérite, comme si Dieu te doit quelque chose, ni avec le sens de la commisération, de la culpabilité, de la défaite. Célébrons la liberté de la grâce de Dieu. Amen. Qui va au-delà de la religion et de toutes les logiques de la religion. Amen.